Voilà, nous arrivons à la donc, troisième partie de notre rencontre, mais à chaque fois, chacune se présente comme distincte des autres. Alors je dis ça pour ceux qui arrivent et qui peuvent raccrocher des wagons au passage. Donc bienvenue d'ailleurs à vous, hein. Cette partie s'intitule La mort de Dieu. Alors vous avez dit, Jean-Luc, tout à l'heure, vous avez presque pris un peu à la légère une affirmation de Nietzsche. Pourtant, Dieu est mort, ça suppose qu'on sache ce que veut dire Dieu, ce que veut dire mort, ce que veut dire être, c'est-à-dire précisément trois incompréhensibles d'une certaine façon, ou indéfinissables. Mais Nietzsche lui-même a employé cette parole-là dans un passage célèbre. Et il a dit en même temps, il n'en a pas fait une platitude.
Non.
Il en a parlé comme de quelque chose devant quoi l'humanité n'était pas encore à la hauteur, d'une certaine façon, et qu'on ne savait pas trop quoi en faire. C'est-à-dire que Nietzsche n'était pas assez vulgaire pour dire qu'il était athée. Il disait simplement, voilà, il dressait cela non pas comme une affirmation idéologique, mais comme un constat. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord pour Nietzsche, selon vous, Dieu est mort? Je pose cette question parce que vous avez écrit ce livre, à mes yeux, très important, L'idole et la distance, qui contient un chapitre extraordinaire sur Nietzsche. Moi-même, je l'ai lu à une époque où j'étais très nietzschéen, il a eu un fort effet sur moi, mais la différence, je me disais profondément athée, et si je n'étais pas autoté, comme vous disiez, à la suite de Peggy, c'est-à-dire à moi-même mon propre Dieu, je me suis rendu compte qu'à l'époque, quand on rejetait Dieu, on cessait de se fabriquer des idoles, et alors mon idole, c'était Nietzsche. C'était mon Messie, c'était mon Christ, je le lisais, mais la lecture que vous en avez fait m'a, pour cette raison même, énormément touché. Alors, qu'est-ce que veut dire Nietzsche par Dieu est mort?
Il faut d'abord admettre qu'il voulait dire quelque chose de sérieux. C'est déjà un premier pas à faire. Donc, de le lire comme un philosophe, ce qui ne va pas de soi. Alors, moi, ce qui m'avait beaucoup éclairé en lisant Nietzsche, c'était le fait qu'il employait aussi la notion d'idole, le crépuscule des idoles. Là, c'est donné des livres, des quatre derniers livres de la dernière année de vie consciente. Crépuscule des idoles. Et dans le crépuscule des idoles, il critique, il réduit à néant un certain nombre de concepts de la métaphysique classique. Je vous rappelle, conscience de soi, cause, effet, substance, et puis libre arbitre. Alors, voilà des idoles. Et, bon, la notion d'idole, pour moi, avait un sens théologique un peu précis, quand même. Et je me suis demandé pourquoi il parlait d'idole de ce type, en prenant les concepts. Et puis, un jour, j'ai lu un fragment qui dit, en substance... finalement, et à la fin, seul le Dieu moral est dépassé. Hubert Wunden. Or, cette notion de Dieu moral, elle a un sens extrêmement précis dans l'Allemagne de Nietzsche. C'est la définition de Dieu qui a été laissée accessible par Kant. Dieu ne peut pas être connu dans le domaine théorique, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une idée de la raison, mais son existence ne peut pas être prouvée de manière théorique, mais Dieu est requis pour que la vie morale, c'est-à-dire l'exercice de la liberté, se développe. Donc Dieu est une des conditions de possibilité de la vie morale. Dieu, l'existence de Dieu, qui assure la rétribution de celui qui agit bien et le jugement de celui qui agit mal, qui permet de comprendre le niveau de réalité où se situe la liberté et qui permet donc la moralité. Le fait d'agir selon les exigences de la raison universelle. Donc, Cette définition du Dieu moral, on la trouve chez Kant, mais on la trouve chez tous les auteurs qui suivent. On la retrouve même chez, par exemple, Feuerbach, qui, d'une certaine manière, nie Dieu, mais garde la morale. Et Nietzsche avait critiqué cette absolutisation, cette divinisation de la morale, précisément en écrivant un livre qui s'appelle « Par-delà bien et mal », et en écrivant « La généalogie de la morale ». Donc, j'ai d'un seul coup trouvé, si je puis dire, que Nietzsche était très précis, il avait constaté la mort du Dieu moral, la définition morale de Dieu. Et cette définition morale de Dieu repose sur un certain nombre de concepts qui, pour Nietzsche, ne sont pas vérifiables dans l'expérience morale, qui sont le libre arbitre, la conscience de soi, la causalité, etc. Donc il y a une idole, et une idole proprement métaphysique, qui a été détruite et dépassée sous le nom de Dieu. Et Nietzsche dit, je constate que la vision du Dieu moral n'est pas suffisante pour assurer la réalité d'une pensée de Dieu. Et c'est cette conséquence qui fait qu'il annonce la mort de Dieu. Donc la mort de Dieu, c'est ça le paradoxe, a un sens précis. Elle est la mort d'une idole. Alors qu'est-ce que c'est qu'une idole ? Une idole, on y reviendra, mais une idole, c'est d'abord, en l'occurrence, une définition de Dieu. Et je suis arrivé à cette conséquence qui me semble logique, qui est un peu surprenante, c'est que, ou bien la mort de Dieu ne veut rien dire de précis, c'est la mort de Dieu en général. Mais dans ce cas-là, ça indique, si je puis dire, l'état d'esprit pas très sympathique et pas très ouvert de celui qui dit la mort de Dieu. Il peut dire la mort de Dieu comme « je n'aime personne ». C'est plus une description de l'état de celui qui parle qu'une description d'état de choses, comme on dirait maintenant. Bon, si « mort de Dieu » veut dire quelque chose, ça veut dire la mort d'une définition précise de Dieu. Autrement, ça n'a aucun sens. Donc, pour être rationnel, la mort de Dieu doit être la mort de quelque chose qui ne peut pas exister, qui ne peut pas vivre, du fait de sa définition qui est inadéquate. En l'occurrence, pour Nietzsche, la définition de Dieu comme, c'est la formule de Nietzsche, de Fichte, imitant Kant, suivant Kant, à savoir le fondement moral du monde. Donc Dieu comme fondement moral du monde, définition précise, n'est pas adéquat, pour des raisons qu'on peut discuter, mais enfin, telle était la constatation de Nietzsche. Donc, à ce moment-là, l'athéisme théorique de Nietzsche prend un sens parce qu'il porte sur une définition de Dieu. Mais le paradoxe, c'est que l'athéisme n'est donc rationnel que s'il porte sur une définition de Dieu. Mais il laisse ouvert toutes les autres possibles définitions de Dieu. C'est-à-dire, le Dieu rétributeur et moral n'est pas, ne fonctionne pas. On le récuse. Avant, il y avait eu le Dieu cause de soi, dont nous parlions ce matin. Où le Dieu, on peut récuser que Dieu puisse être défini comme la cause de soi et dire que c'est une pure idole métaphysique, ce que je pense. On peut discuter, par exemple, est-ce que Dieu créateur a un sens ? Qu'est-ce qu'avait dit la création ? En un sens, ça n'en a pas. Et en un autre, ça en a, nous y reviendrons. Donc, on peut être athée ou croyant d'une définition de Dieu. En général, ça ne veut rien dire, parce qu'il y en a toujours d'autres possibles. Et puis, bien plus que ça, il y a aussi une définition de Dieu qui est la plus profonde et la plus constante, à savoir que Dieu n'a pas de définition. Il y a aussi le fait que Dieu, par définition, n'en a pas. Parce que s'il en a une, il est donc d'une certaine manière fini. Et même les Écritures, même la Bible, en un sens, ne donne jamais de définition de Dieu. On peut discuter quels sont les noms que Dieu accepte qu'on lui donne selon l'Écriture, mais il n'y a pas de définition de Dieu. On pourrait même dire que si Dieu était définissable, c'est-à-dire compréhensible, c'est-à-dire répondant, si toutes les propriétés de Dieu tenaient dans une définition, ce ne serait pas Dieu. On peut songer à cette définition de Dieu qui est peut-être la meilleure, si je puis dire, qui n'a jamais été donnée, qui est celle de saint Anselme. Dieu est id quo maius cogitari nequit. Ce qui est tel que rien de plus grand ne puisse être pensé. C'est-à-dire, vous pouvez dire, Dieu c'est l'infini, au moins. Parce que si vous pouvez penser à l'infini, Dieu, c'est un cran au-dessus. Donc Dieu, c'est toujours un cran au-dessus. Par définition. Donc, d'une certaine manière, l'athéisme, c'était la leçon de Nietzsche, enfin, il y en a beaucoup d'autres, hein, on revient sur Nietzsche, mais la leçon de Nietzsche, c'est que l'athéisme, ou bien est un pur mouvement passionnel, idéologique, qui n'enseigne rien sur Dieu, mais qui est un symptôme de celui qui le proclame, ça c'est possible, ou bien il est rationnel, et il est toujours sur une définition disqualifiée de Dieu. Donc il est toujours sur une idole, et donc la mort de Dieu, quelle que soit la définition de Dieu, quelle que soit l'idole de Dieu qui est ainsi disqualifiée, la mort de Dieu ne ferme pas la question de Dieu, elle la ouvre, au contraire, la question de Dieu. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que Dieu survit à tout, y compris à la mort de Dieu, et on peut même dire que Dieu, que la question de Dieu est d'autant plus ouverte qu'il n'y a pas d'idole dominante que les gens prendraient comme allant de soi. Donc, la mort des idoles, il n'y a rien de plus biblique, la mort des idoles, c'est ce que Dieu souhaite. La mort des idoles ouvre la question de Dieu. Bon, le fait que nous n'ayons en ce moment pas de représentation dominante de Dieu, du moins dans l'Occident, au moins, disons dans l'Occident chrétien, il n'y a pas de représentation dominante de Dieu. Quand on voit ce que les représentations dominantes de Dieu ont induit dans le passé, ça n'est pas une nouvelle entièrement négative. C'est-à-dire que nous n'identifions plus, par exemple, Dieu ni à un roi, un empereur. Nous ne pensons pas Dieu sous le mode de la toute-puissance. Nous ne pensons pas Dieu sur le mode de la justice et de celui qui rétribue les bons, qui punit les méchants, etc. Nous n'envisageons même pas Dieu sous la vision de l'homme infini à venir, c'est-à-dire de l'humanisme, de l'achèvement de nos idéaux humains. Bon. Nous avons un blanc à propos de Dieu. Mais ce blanc, d'une certaine manière, ouvre la question de Dieu. Donc il y a des idoles, et le vrai Dieu se définit par destruction des idoles, et il y a des idoles qui sont pas seulement matérielles, mais pas seulement sensibles, mais qui sont des idoles conceptuelles. Les concepts peuvent jouer. Donc la grande leçon de Nietzsche, c'est que la mort de Dieu réouvre, si on la pense correctement, la question de Dieu. Et de fait, d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit. Car, bien entendu, on peut, constatant que la question de Dieu est ouverte, y répondre par de nouvelles idoles. Alors, il y a des idoles très vulgaires, comme le développement personnel, le post-humanisme, l'humanité augmentée, etc. Bon, ça, ce sont des idoles assez grossières, hein, puisqu'il s'agit en fait d'essayer de se diviniser un peu soi-même par des moyens externes. Mais ça n'est qu'un cas d'idole. Et alors, c'est intéressant parce que les idoles contemporaines sont vraiment idolâtriques. Enfin, on ne peut pas se tromper sur le fait que ce sont des substituts, des représentations de substitution de Dieu. Voilà à quoi Nietzsche, si je puis dire, m'a servi. Et c'était le moment où, dans l'université, la question, la mort de Dieu, elle est de soi. Bon. Parce qu'il y a aussi une autre considération qu'il faut introduire. C'est que, encore une fois, il appartient à Dieu, pour être correctement envisagé, de rester incompréhensible. Ce n'est pas du tout un paradoxe. Alors, ça n'est pas un paradoxe pour de nombreuses raisons. Je vais en mentionner deux. L'une, c'est que nous-mêmes, dans les relations intersubjectives, nous savons très bien que nous pouvons connaître quelqu'un sans le comprendre. Et que même, d'une certaine manière, c'est quand nous ne le comprenons pas que la connaissance est une connaissance personnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui vous est indifférent, vous le comprenez très bien. Et pour comprendre quelqu'un, il suffit d'avoir toutes les informations qui sont dans son CV, toutes ces informations bancaires, ces informations de santé, ces informations juridiques et policières, sont ces études, bon, ces caractéristiques physiques, vous avez une compréhension assez complète de l'autre comme un objet. Mais ça, ce n'est pas une relation personnelle. Au contraire, une relation personnelle, c'est quand vous êtes en rapport avec quelqu'un qui vous intéresse et dont vous voudriez bien savoir ce qu'il va faire, ce qu'il pense, s'il vous veut du bien ou pas, etc. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous ne contrôlez pas. Une relation amoureuse, c'est une relation, en un sens, que vous ne contrôlez pas. C'est pour ça qu'elle est amoureuse. Autrement, si vous la contrôlez, on sort du cadre de l'épure. Donc, nous savons très bien que connaître quelqu'un et le comprendre sont deux choses différentes. Et que d'une certaine manière, il vaut mieux ne pas trop comprendre quelqu'un si on veut le connaître et l'aimer. Il faut qu'il vous réserve des surprises. S'il ne peut plus vous réserver de surprises, on est quand même au bout de l'histoire.
Mais même plus on l'aime, moins on le comprend. C'est c'est la nature même de l'amour, non ?
Exactement. Oui, absolument. Oui. Aimer quelqu'un, c'est ne pas le comprendre, si je puis dire. Ne pas le réduire à la somme des informations qu'on a sur lui. Bon. Alors, ça c'est la première raison. Donc, quand on dit que nous connaissons Dieu et que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas le définir, on ne dit pas du tout c'est pas du tout un saut dans l'absurde et toutes ces choses. C'est tout à fait rationnel, au contraire. Ce serait évidemment absurde de dire je connais Dieu parce que je le comprends. Donc ça ce serait absurde. Deuxièmement, il y a le fait que dans la théologie chrétienne, pas seulement chrétienne, juive aussi, partiellement la pensée musulmane pour autant que je la connais, la nomination de Dieu, la connaissance de Dieu se fait autant par négation que par affirmation. C'est-à-dire, Dieu est beau, mais pas au sens où les choses du monde sont belles. Dieu est juste, mais pas au sens où nous sommes justes. Etc. C'est-à-dire, Dieu est, mais pas au sens seulement où nous sommes. Donc, il y a toujours une hyperbole. D'ailleurs, quand on est amoureux, on pratique l'hyperbole aussi. Il est exceptionnel, elle est incroyable. Donc il y a l'hyperbole. Et cette hyperbole, elle est à la fois affirmative et négative. Un des pères de l'Église les plus fondamentaux, bien qu'on ne sache pas grand-chose sur lui, Denis dit l'aréopagite, dit le pseudo. Denis dit dans la théologie mystique que Dieu a deux catégories, deux manières d'être nommé. Dieu a tous les noms et Dieu est anonyme. Polyonymon, anonymon. Polyonymos, anonymos. C'est tout à fait juste. Et en fait, c'est l'articulation des deux qui fait qu'on sort d'un rapport purement représentatif, prédicatif, dire de Dieu, dire quelque chose de Dieu, comme si Dieu était quelque chose, et comme si on pouvait en prédiquer au sens clair quelque chose. En fait, on ne peut rien dire de Dieu. Mais donc, du coup, on peut tout dire de Dieu. Et, parce qu'en un sens, Dieu est tout. Chaque chose convient à Dieu, soit en passant à la limite, soit par négation, etc. Soit par analogie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, finalement, on revient à ce qu'on disait ce matin, on ne prédique rien de Dieu, mais on le loue. C'est-à-dire, on le loue sous un certain rapport. Bon, eh bien, on voit très bien que dans ce cas, notre rapport à Dieu doit toujours, quand on dit nous connaissons Dieu ou nous ne connaissons pas Dieu, Dieu existe, Dieu n'existe pas, etc. On doit toujours se poser une question. Est-ce que Dieu, à supposer qu'il soit connaissable, peut être connu comme ce qui n'est pas Dieu ? La réponse est, si Dieu est Dieu, la manière de le connaître doit être un peu particulière. De la même manière, si Dieu est Dieu, la manière d'en parler est différente. Je prends l'exemple de l'être. Il y a un livre qui s'appelle Dieu sans l'être, etc., bon, qui a été critiqué, peut-être justement, enfin, c'est pas le problème. Quand on dit Dieu est, il y a une question. C'est de savoir ce que ça veut dire, être. C'est-à-dire en quel sens est-ce que être est quelque chose que l'on peut appliquer à Dieu. Alors, il y a un très bon guide sur ce sujet, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, on dit toujours, saint Thomas d'Aquin définit Dieu par l'être. Il dit que Dieu, le nom de Dieu, c'est l'être. Saint Thomas dit que Dieu est identifiable à l'ipsum esse, l'être même, au sens verbal, esse, ou encore l'acte d'être. Alors, l'acte d'être, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'acte d'être, une fois qu'on a dit que Dieu égale l'acte d'être? Alors, saint Thomas est tout à fait clair. Il dit que l'acte d'être, il nous est profondément inconnu. Et c'est très cohérent, parce qu'il dit que, justement, les créatures, ce sont celles qui n'accèdent pas à l'acte d'être. L'acte d'être leur vient de l'extérieur. Et c'est Dieu, comme acte d'être, c'est-à-dire ce que nous ne sommes pas, qui nous permet d'être, c'est-à-dire qui met, si je puis dire, en être, comme on dit mettre en marche, ou mettre en forme, qui met en être notre essence. Donc chacun a une essence, mais notre essence, nous ne pouvons pas la faire démarrer. Pour que notre essence entre en acte, il faut que l'acte d'être s'en charge. Et ça vient de l'extérieur. Eh bien, la conséquence, c'est que être pour nous, ça veut dire avoir une essence qui n'est pas par elle-même. Alors, il y a un concept commun d'être, qui est la première chose qui tombe sous le sens pour nous, sous l'imagination, on dit parfois sous l'entendement, savoir tout ce qui est, si je puis dire. Pour nous, être, c'est une détermination à la fois très commune, n'importe quoi, mais aussi très vague, puisque justement notre être est une ombre d'être, si je puis dire, puisque d'après saint Thomas, il faut que l'être nous vienne de l'extérieur, c'est-à-dire de Dieu, de l'acte d'être dont nous n'avons aucune idée. Plenitus incognitum, dit-il. Donc, quand nous disons Dieu est, on a parfaitement raison de dire Dieu est, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça fait partie de la règle du jeu. Donc, nous avons un concept d'être. Mais ce concept d'être, il est tout à fait banal. Il n'explique rien. Ce micro est, la table est, tout dans cette pièce est, la neige est, on ne va pas en faire un plat. Bon, même des idées, des opinions, d'une certaine manière, cela est. Même les choses qui ne sont pas, pour autant qu'on peut en parler, elles sont d'une certaine manière. Donc être, ce n'est pas extraordinaire. Alors, si vous dites Dieu est, bon, d'accord. Ça n'a pas tellement plus de sens de dire Dieu est, si on veut penser à ce qu'on pense, hein, penser ce qu'on dit, que de dire Dieu est bleu ou rouge. Et peut-être dire Dieu est bleu ou rouge a plus de sens que dire Dieu est. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la philosophie classique, quand elle va de saint Thomas jusqu'à Kant, par exemple, elle fait un parcours chez saint Thomas. Il y a l'acte d'être, qui est en Dieu et qui est Dieu, et dont auquel nous n'avons évidemment pas accès directement, qui met en œuvre, en marche, si je puis dire, notre petit concept d'être, qui permet de concevoir nos essences, de distinguer la définition de l'essence de l'un, de la définition de l'essence de l'autre. Bien. Mais, au bout du compte, quand l'être, saint Thomas ne dit pas encore exister, hein, il n'emploie pas beaucoup le terme existence, quand l'essai, l'acte d'être, va être peu à peu pensé comme existence. Qu'on va opposer l'essence à l'existence. Finalement, on va arriver à dire que l'existence n'a aucune définition. Que c'est la simple position des choses dans la réalité, mais qu'on ne peut pas définir l'existence. Donc il n'y a pas de concept d'existence, c'est ce qu'a dit Kant. Il n'y a pas de concept du Dasein, de l'existence. L'existence ne dit rien de la chose. Ce n'est pas une qualité qu'on pourrait définir et attribuer à la chose. C'est le fait que la chose est posée au lieu d'être simplement imaginée. C'est une pure position. Donc, en un sens, être, en métaphysique classique, ça ne veut rien dire. Au point que le concept d'être, d'étant, comme on dit, Hans, being, Zeyende, le concept des temps est identifié dans l'ontologie classique, et seuls les modernes ont employé le mot ontologie, puisque c'est un mot qui est inconnu d'Aristote, de saint Thomas, etc. L'ontologie définit les temps comme le cogitable, le pensable. C'est même tout près d'ici, enfin, un peu différent, à Saint-Gallen, qu'en 1603, d'après les dernières avancées de l'érudition, Lorardus, un gars qui s'appelait Lorardus, qui était à l'abbaye de Saint-Gallen, qui était un calviniste, bien sûr, a inventé le terme d'ontologie. Et dès le début de l'ontologie, qui a été inventée en Suisse, enfin à Saint-Gallen, et après ça s'est développé, l'objet de l'ontologie, ça n'est pas ce qui est. Parce que l'ontologie couvre tout. Donc, elle doit couvrir non seulement ce qui est réellement, les essences, les substances, mais aussi les accidents, et aussi ce qui est simplement pensé. Et donc, finalement, on en viendra à dire que la définition de l'étant, de ce qui est, ça n'est pas du tout l'essence, la réalité, comme vous l'appelez, c'est le pensable, cogitabilé. Donc, il faut bien faire attention. Si vous dites que Dieu est, on comprend bien que vous, ça veut dire que vous prenez Dieu au sérieux, que vous croyez en Dieu d'une certaine manière, que vous acceptez l'hypothèse de Dieu. C'est là que je comprends ça très bien, ça, en ce sens. C'est une proposition sensée. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on dit grand-chose sur Dieu quand on dit qu'il est. Non seulement parce que tout est, et dans ce cas-là, ce n'est pas un privilège d'être, mais en ce sens, même la philosophie ne peut à peu près rien dire de ce que être veut dire. Alors, on pourrait prendre le cas de Heidegger, qui d'abord est exceptionnel, et ensuite tout à fait particulier. Mais la philosophie classique, être est un mot... Hegel commence quand même la science de la logique par la science de l'être. C'est le premier livre de la science de la logique. Et le premier livre de la science de la logique commence par un premier chapitre où il donne la définition de l'être, puis après il donne la définition du néant, et il dit, vous avez remarqué que c'est la même. C'est-à-dire que les caractéristiques de l'être sont les mêmes que les caractéristiques du néant. Et c'est absolument exact. Donc, faisons attention de ne pas nous illusionner quand on dit que Dieu est. Quand on dit que Dieu existe, alors là, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Parce qu'en termes de pensée du XXe siècle, l'existence est propre à la finitude de l'homme. Et chez saint Thomas, on ne dit pas que Dieu existe. On dit qu'il est ipsum esse et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, allons-y calmement. Donc, dire que Dieu existe, les preuves de l'existence de Dieu, outre que des preuves de l'existence de Dieu avant Descartes, il n'y en avait pas, on peut vivre sans. Naturellement que Dieu est, mais une fois qu'on a dit ça, vraiment, c'est le commencement, mais pas du tout la fin. Donc il y a quelque chose d'un peu naïf d'être rassuré quand on est croyant, parce qu'on vous démontre l'existence de Dieu, et d'être catastrophé parce qu'on vous dit que Dieu est mort. Il y a un peu de naïveté.
Alors, deux questions. La première, c'est sur la définition. Dire que Dieu, par définition, n'a pas de définition, c'est encore une définition. On pourrait presque aller plus loin que cela.
C'est très juste.
Non, mais aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser deux modalités de la définition. C'est-à-dire une définition qui prétend saisir ce qu'est quelque chose, et elle ne saisit d'ailleurs que des objets finalement, et puis une définition qui est plutôt comme le cadre qui réserve, on pourrait dire, le mystère propre d'un alors, être. Alors, parce que je voudrais juste préciser, si on dit Dieu, il n'y a aucune définition, il n'y a pas de définition, ça peut devenir aussi un vide, ça devient le néant, comme dans la science de la logique, justement, où ça devient aussi une sorte de fourre-tout. Oui. Et précisément, non pas ce qui est au-delà des idoles, mais presque le réservoir sans fin de toute idolâtrie. Donc il y a forcément un dépassement, il n'y a pas de définition, alors à la limite je pourrais le dire, mais en même temps il y a une autre modalité de la définition qui est un peu comme, on parlait de l'amour et de quelqu'un, un peu comme la maison dans laquelle on protège sa femme et on la laisse déployer tout son mystère. Est-ce qu'on ne peut pas penser la définition autrement ?
Ben, il faudrait revenir, je pense, moi d'abord, à la définition de la définition, si
voilà,
je puis dire,
ça.
Chez Aristote. Aristote dit que la définition, c'est une orismos, ce qu'on pourrait traduire par délimitation. C'est une délimitation. Et le grand problème de la délimitation, c'est qu'il y a un discours pour faire la délimitation, mais que la chose n'est jamais, du moins les choses de notre monde, n'est jamais stable. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dans la délimitation, parce que la chose change, évolue. Et donc, si on a une délimitation trop large, ça ne permet pas d'individualiser la chose. Mais si on a une délimitation trop étroite, on va réduire la chose à peu de choses. Si je puis dire. Bon. Donc, Aristote essaie de dégager un noyau stable de la chose. C'est ça qu'il appelle l'essence, l'usia, ce qu'on traduit, l'usia au sens de ce qu'on traduit par essence. Et après, il essaie de rajouter quelques accidents qui sont très souvent là, quasiment nécessairement. Alors il y a l'accident par soi, de deux types, puis il y a l'ensemble de ce qui la plupart du temps est avec la chose. Alors c'est là autour qu'il fait sa délimitation. Donc il y a un package, comme on dit, avec un noyau permanent, et puis des propriétés relativement stables. Alors la question de savoir à propos de Dieu, si quel est le package. Alors, on comprend très bien que c'est là que la question de la révélation prend un sens. C'est-à-dire, dans la révélation, on vient un peu au secours de la philosophie, qui n'a pas grand-chose à dire, finalement, à propos des propriétés de Dieu, parce qu'elle va rester trop abstraite ou trop compréhensive. D'une certaine manière, on va faire entrer dans les propriétés de Dieu des choses qui sont peut-être de Dieu, mais enfin, bon, on va d'un côté ou bien être totalement agnostique ou bien être panthéiste. Alors, la révélation nous donne un package permettant une orismos. On nous dit deux ou trois choses. Et puis surtout, on voit comment ça se passe. Et ça, c'est très aristotélicien d'avoir une définition temporelle. Aristote dit, à propos de la définition, qu'il faut garder dans la définition ce que c'était pour la chose d'être. Je traduis ainsi une formule technique, le to, ti, en, einai, ce que c'était, to, ti, en, ce que cela était d'être pour la chose. Et c'est une définition en quelque manière pas logique, presque empirique. Dans le temps, la chose, elle a toujours cette tête-là à peu près. Voilà ce que c'est jusqu'ici, ce que ça a été jusqu'ici de la chose pour être ce qu'elle est. Bon, Dieu, dans la révélation, quand même, il y a des constantes. On voit un peu ses habitudes, ses manières de faire. Il y a des choses qui ne trompent pas, si je puis dire. On reconnaît la patte de Dieu, comme un peintre. Vous savez, un peintre, j'aime beaucoup cette comparaison. Quand vous voyez un tableau de Cézanne, vous le reconnaissez tout de suite, on ne peut pas se tromper. Alors pourtant, le tableau de Cézanne, souvent, n'est pas signé, et puis ce n'est pas un tableau qui représente Cézanne. Et pourtant, vous dites, c'est un Cézanne. Eh bien, on peut dire que dans les œuvres de Dieu, c'est pareil. Par exemple, quand on voit un homme, vous dites, ça, c'est un Dieu. Au sens, on dit d'un tableau, ça, c'est un Cézanne. C'est signé. On voit le style, la patte. Il n'y a pas moyen de s'y tromper. Il n'y en a pas 36 qui peuvent faire des choses pareilles. Nous sommes tous des dieux comme ça. Et il y a des événements où on dit c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est signé. des hasards. Des hasards. Parce qu'un truc, quand Dieu fait quelque chose dans l'histoire, c'est jamais attention, c'est moi. Tout se passe comme si c'était lui. Mais c'est quand même signé. Il faut vraiment être un très mauvais policier, pas du tout connaître les truands en liberté pour ne pas reconnaître que c'est lui qui a fait ça. Ce casse-là, c'est lui. Il n'y en a pas 36 sur la place de Paris qui peuvent le faire, comme dit Gabin. Bon. Donc, on sait que c'est lui ou là ou l'autre. Bon. Dans le cas, quand on voit un être humain, c'est un dieu. Bon. Donc, Dieu, on le reconnaît à ses traces, comme disaient les médiévaux, à ses vestidium, vestidia. Dieu laisse des traces, et un bon policier le reconnaît, à ses manières, à ses us et manières, à ses œuvres. Donc, et la question de Dieu, et c'est ça l'intérêt de la Bible, c'est qu'on voit bien comment il s'y prend. C'est un peu toujours pareil. C'est un peu toujours pareil. Il dit tout, en même temps, il dit rien. C'est à vous de comprendre. Mais, en un sens, vous avez peu d'excuses de ne pas comprendre, parce que c'est quand même clair comme l'eau de roche. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est parce que, en fait, de manière, vous ne voulez pas comprendre. Mais cela même fait partie du truc. C'est-à-dire, le fait que vous ne vouliez pas comprendre, c'est un des modes de révélation. Donc, ce mélange d'évidence et de dissimulation est caractéristique de Dieu. C'est pour ça pourquoi la philosophie est très inconfortable vis-à-vis de Dieu. Parce que ça bouleverse les règles. Et alors, c'est encore plus pervers que ça, parce que si Dieu ne bouleversait pas les règles du discours sur lui, de la relation, les règles de la rencontre, de sa rencontre, d'en faire l'expérience, les règles de la parole, les règles de la connaissance, si Dieu ne bouleversait pas ces règles, ce ne serait pas Dieu. C'est ça aussi. S'il était comme tout le monde, ça, il n'y aurait aucun problème. Ce ne serait pas Dieu s'il était comme tout le monde. Mais il n'y aurait aucun problème. Mais simplement, lui, par définition, doit faire exception. C'est dans ce sens que je disais que par définition, il n'en a pas. Enfin, par définition, il doit faire exception. Parce que s'il ne fait pas exception, on lui donne une carte d'adhérent au club, mais enfin, c'est tout. Je veux dire, il ne va pas en faire une histoire. Or, Dieu, c'est difficile de ne pas en faire une histoire. Et le plus étrange, c'est que on en fait toute une histoire, même quand on le récuse. Il ne suffit pas de récuser Dieu pour en avoir fini avec Dieu. Parce qu'une fois que vous avez dit que Dieu est impossible, on vous répond oui, mais enfin, l'une des caractéristiques des dieux, s'il y en a, ceci depuis Homère, depuis toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à la philosophie contemporaine, c'est que il habite l'impossible. Il y a un théologien du 15e siècle, Nicolas de Cuse, qui disait où peut-on voir ou connaître Dieu? Tant qu'il s'agit du domaine du possible, nul n'a besoin de Dieu. Le possible, nous savons très bien le gérer. C'est même la définition du possible, c'est ce que nous pouvons gérer. Alors, il y a un domaine dans lequel nous ne pouvons pas aller, c'est l'impossible. On peut reculer les bornes du possible, d'accord. Mais on ne peut pas éliminer l'impossible. Donc il y a toujours de l'impossible. Et là, l'homme ne peut pas y aller. Donc si on veut rencontrer Dieu, il faut aller là où il pourrait être, c'est-à-dire dans le domaine de l'impossible. Donc essayons d'expérimenter l'impossible, peut-être que c'est là qu'on rencontrera Dieu. C'est pas idiot comme définition. Quand il y a de l'impossible, alors là, vraisemblablement, on va entrer sur une terre sainte où il faut enlever ses chaussures si on veut poser le pied dessus et faire très attention à ce qu'on fait. Vous me direz, mais l'impossible, justement, on n'y a jamais accès. Si, il y a au moins deux fois une fois qui va arriver pour tout le monde, c'est la mort. Parce que là. Et puis, il y a une autre fois, c'est déjà arrivé, c'est la naissance. Car ce qui est intéressant dans notre naissance, c'est que nous n'avons toujours pas compris ce qui s'est passé. Or, il s'est passé quelque chose. On était là depuis 9 mois minimum. Et puis avant, nous étions dans le rein, dans les reins de notre père, etc. Bon, donc on y était avant. On a passé 9 mois où beaucoup de choses se sont déjà décidées. On s'est aperçu de rien. On est venu au monde. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Et nous passons notre temps à surmonter le trauma, à essayer de remettre les choses en place, ou du moins apprendre à boiter de manière à peu près stable jusqu'à la fin. Et cet événement que nous ne comprenons pas, il est pourtant celui qui détermine toute notre vie. Donc l'impossible, attention, on est dedans. Alors on demande à des gens de nous expliquer, de nous aider à concevoir cet impossible, etc. Enfin, ils n'en savent rien, naturellement, on le sait bien d'ailleurs. Mais au bout du compte, nous sommes le résultat d'une impossibilité effective, ce qui est d'ailleurs la définition d'un événement. Un événement, c'est quelque chose qui n'a jamais été possible, c'est-à-dire prévisible, dont on ne connaît pas l'essence, qu'on ne pouvait pas organiser, prévoir, anticiper. C'est donc impossible. Et c'est pourtant c'est quelque chose qui est devenu effectif. Eh bien, la naissance a ses caractéristiques. Ma naissance a ses caractéristiques-là. Donc l'impossible, c'est quelque chose qui nous est relativement familier. Et donc définir Dieu par celui qui appartient, s'il y en a un, au domaine de l'impossible, ce n'est pas du tout rêver. Le domaine de l'impossible, nous avons un pied dedans.
Vous avez souvent dit que justement la question de l'existence de Dieu était une mauvaise question. Alors, la phrase de saint Augustin, si tu comprends, ça n'est pas Dieu. Mais est-ce que c'est seulement ça l'enjeu, c'est-à-dire être toujours dans une position, on pourrait dire, où c'est moi qui ai à comprendre, et là je ne comprends pas, une position qu'on pourrait appeler spéculative. Ou alors, est-ce qu'il n'y va pas, justement, dans la question de Dieu aussi, d'un retournement, on pourrait dire, de la lumière. En philosophie, on questionne. Mais en réalité, on ne questionne pas quand ça nous dépasse complètement. On n'est plus maître de la question, c'est nous qui sommes questionnés, là. C'est ce que dit d'ailleurs saint Augustin. Et puis quand je parle de retournement de la lumière, c'est que on juge est-ce que c'est, est-ce que ça n'est pas, etc. Mais là, c'est nous qui sommes jugés. C'est-à-dire qu'en fait, on change d'ordre de la vérité. Et je voulais reprendre cette distinction de saint Augustin. Saint Augustin distingue la veritas lucens, la vérité qui éclaire les choses, et puis la veritas redarguens, la vérité qui accuse. Mais en réalité, par-delà même d'ailleurs l'accusation, c'est que ça n'est plus nous qui avons autorité sur la question, ça n'est plus nous qui jugeons, mais c'est nous qui sommes jugés. Et donc, face à Dieu, s'il y en a un, de toute façon, la position ne peut pas être celle où c'est moi qui juge. Ça ne peut pas être celle où c'est moi qui questionne, mais c'est où c'est moi qui suis jugé. Et là, je passe de la question plutôt à la prière, c'est-à-dire à une autre modalité
du logos,
de la demande. Voilà.
Non, mais c'est, vous avez parfaitement raison. Si vous voulez, quand on est en présence de Dieu, on a la politesse de ne pas lui poser des questions. Par contre, vous allez dire, est-ce que vous existez? Je voudrais être vraiment sûr que vous existiez avant de commencer notre discussion. Vous imaginez, comme ça, même le président du canton, pour Metz, on ne dit pas ça, on est poli. Bon. Donc, cette idée que je vais d'abord établir l'existence de Dieu avant de commencer à discuter avec lui, ça n'a pas de sens. C'est évidemment jamais comme ça que les choses se passent entre gens civilisés ou même d'ailleurs non civilisés. Je veux dire, quand on est dictateur, vous n'avez pas que. Bon. Donc, ici, c'est moi qui parle, va-t-il dire, pas vous. Donc, il est bien clair que le rapport à Dieu, c'est toujours comme ça que ça se produit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle. Et si vous causez trop comme Job, à la fin, il vous fait savoir que quand même, il faut se tenir. Donc, je veux dire, une grande partie du discours sur Dieu est disqualifiée simplement parce que c'est pas convenable. Ça ne convient pas à la situation. C'est complètement à côté de la plaque. Donc, alors, la distinction que fait saint Augustin entre la vérité qui éclaire et la vérité qui... parce que Red Argens, il y a Arguerre, donc qui juge, qui accuse, mais il y a aussi qui retourne, c'est ça la chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, la vérité, comme lumière projetée sur les choses, plus il y en a, mieux c'est. Tout le monde, plus on voit... Plus on est content, plus on voit, plus on sait, plus on comprend, on peut s'organiser, prendre des mesures, mesurer la situation, s'adapter, etc. Donc le progrès de la connaissance, de la science, c'est parfait. Plus il y en a, plus on est content. Sauf si la lumière se retourne et au lieu que ce soit la lumière vienne de moi, dans ce cas-là, si la lumière vient de moi, moi je suis... derrière, tranquille, dans l'ombre. Je ne suis pas en cause. Mais si la lumière, d'une certaine manière, revient sur moi, c'est plus embêtant. Parce que moi aussi, je vais être mis en lumière. La transparence, toutes ces choses. Et donc, à ce moment-là, je suis pour qu'il y ait le... Nous allons faire la lumière à fond sur cette question. Oui, enfin, pas trop quand même. Restons prudents. Et donc, quand quelqu'un dit, un responsable politique dit, nous allons faire une enquête à fond sur cette question, tout le monde a un doute. Et on le comprend. Tout le monde comprend que le gars est un doute. Il va peut-être freiner. Si nous étions en sa position, nous ferions la même chose. Donc, nous ne voulons pas que la lumière revienne sur nous. Parce qu'on a tous quelque chose à se reprocher. Enfin, peut-être vous pas, mais enfin, moi, si. Bon. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dit qu'il n'a rien à se reprocher, tout le monde sait qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est un aveu. Bon. Donc, je veux dire, nous avons tous quelque chose à nous reprocher. Donc, la lumière va faire mal, quand même. Et Augustin est tout à fait clair. C'est-à-dire, la lumière, à ce moment-là, elle vient sur nous, comme une avalanche. Et... alors, c'est ça qui fait la différence... c'est là-dessus que je travaille en ce moment, entre la conception même heideggerienne de la vérité, la Leteia, ou le dévoilement est difficile, mais le dévoilement, en un sens, c'est toujours une chance. Tandis que l'apocalypse, c'est presque le même mot, hein, il y a un alpha privatif. Et c'est, donc, pour Aletheia, c'est l'oubli, qui est supprimer l'oubli. Et pour l'Apocalypse, c'est supprimer le voile, bon, dévoilement, ou découvrement, peu importe. Eh bien, dans ce cas, dans l'Apocalypse, il y a non seulement le spectacle du monde ou des autres, mais aussi celui qui le voit, ce spectacle, qui est mis en lumière et qui est dévoilé. C'est-à-dire, le dévoilement inclut... le témoin. Et en fait, le dévoilement porte sur les états de choses, mais aussi, peut-être d'abord, sur le témoin. Et évidemment, il y a une double résistance. Il y a la résistance des choses qui ne se mettent pas toujours en lumière volontairement ou sans reste. Il y a une obscurité des choses. On ne va pas toujours au fond des choses. Mais il y a aussi une résistance... de celui qui bénéficie de la lumière. Car il veut bien qu'on fasse la lumière sur toute chose, pas sur ses turpitudes, évidemment. Et à ce moment-là, on comprend le sens de « c'est moi la vérité », C'est moi la vérité, ça veut dire que la vérité n'est pas une des modalités de la connaissance que moi j'ai. Dans le monde, en philosophie, le vrai, c'est, disons, une qualité, une détermination du discours vrai qui est tenu par moi, enfin par celui qui est le producteur du discours. Et donc, on peut parfaitement tenir un discours vrai en se cachant soi-même. C'est pour ça que le discours vrai, le discours de la science, de la philosophie triomphante, etc., est tenu par un sujet qui n'existe pas, ce qu'on appelle un sujet transcendantal. C'est-à-dire n'importe qui peut être celui qui dit la vérité. C'est un sujet abstrait, et quand on fait des études, par exemple, on apprend à devenir un sujet transcendantal dans un domaine précis. Quand vous comprenez les mathématiques, ben vous devenez le mathématicien qui sait démontrer le théorème, un physicien qui développe une théorie. Bon, ben à ce moment-là, il est le représentant de l'acteur rationnel, qui n'est pas lui comme individu, qui est lui en tant qu'il peut développer le savoir. Donc, en ce sens, tout quelqu'un qui a fait des études est un, à certains moments, dans l'exercice de ses fonctions, un sujet transcendantal. En ce moment, je fais le sujet transcendantal. J'espère le faire bien. C'est-à-dire, je dis ce que, en un sens, n'importe qui pourrait dire dans la même situation sur le même problème. Par exemple, pour définir le sujet transcendantal. Je définis le sujet transcendantal. Ben, je pense qu'un prof qui ne définirait pas le sujet transcendantal comme ça ne serait pas un bon prof. Ce ne serait pas un sujet transcendantal. Bon. Donc, dans l'exercice de la vérité, je produis de la lumière partout sauf sur moi, puisque je n'existe pas, puisque ce n'est pas moi, sujet individuel empirique, qui parle, c'est le sujet transcendantal. Alors Kant explique ça très bien, il ne faut pas bien se tromper, le moi empirique n'est pas concerné par le sujet transcendantal. Tranquille, moi je suis un petit moi empirique, tout ça, alors, je le mets sous le tapis, et pas de lumière sur moi. Quand la lumière est quelqu'un, il n'y a plus de sujet transcendantal qui tienne. Il y a en face un moi qui n'est ni transcendantal ni empirique, qui est moi. Et à ce moment-là, la lumière rejaillit sur moi. Ce qui rend nerveux. Et donc, il y a des gens qui fuient la lumière, d'où la fin. Celui qui fait le péché fuit la lumière. Saint Jean. Il a raison. Donc, le problème, quand une telle lumière apparaît, très bien décrit par Saint-Augustin, dans la même phrase du livre 11 des Confessions, 33, je crois, est la suivante. Donc, la lumière arrive et vous voyez la chose merveilleuse qu'il faut aimer. Mais dit Saint-Augustin, je suis à ce moment-là déjà en train d'aimer autre chose. Parce qu'avant que la lumière ne se fasse, j'avais déjà aimé autre chose, puisqu'on ne peut pas ne pas aimer. Il n'y a personne qui n'aime, dit saint Augustin. Donc, j'aimais déjà, par définition. Puis d'un seul coup, je vois ce qu'il y a à aimer, qui est nettement mieux que ce que j'aimais. Donc, en principe, il faut changer. Mais il faut rompre avec ses habitudes. Ce n'est pas si facile de changer. Vous avez pris une mauvaise habitude, consuetudo tout doux. Et vous savez bien que ce serait quand même beaucoup mieux de boire un grand Bourgogne que du Coca-Cola. À tout point de vue. Pour le goût, pour la santé, etc. Bon. Et pourtant, vous allez continuer à boire du Coca Light. Bon, c'est quand même ridicule de rester au McDo quand vous pouvez avoir une épaule d'agneau sublime. Bon. Mais vous avez vos habitudes. Et donc, pour changer, ça va prendre du temps, ça va être difficile. Il faudra, comme on dit, se remettre en question. Et supposons qu'il s'agit d'autre chose que de boissons et de nourriture, ce sera encore plus difficile. Nous sommes tous addicted à quelque chose. Et le carême, ça sert à ça. Et oui. Donc le carême, c'est... Si vous fumez trop, le carême, c'est le moment où il faut arrêter de fumer. mais attendez, il y a un bon, il y a un bon côté, c'est-à-dire quand on ne peut pas s'arrêter de faire quelque chose, de fumer ou de boire, c'est qu'on est complètement esclave de ça, donc il faut arrêter. Mais quand on peut s'arrêter, c'est qu'on n'est pas esclave. Donc on peut recommencer. Donc vous voyez, il y a toujours... Mais ça, c'est un raisonnement, c'est un argument extrêmement fort, ce que je vais développer. Bon. Donc vous voyez, le problème de passer d'une vérité, d'un bien plus vrai, d'un bien moins vrai et moins parfait à un bien plus parfait, ça demande un arrachement, comme on dit vulgairement. Et c'est là que la vérité fait mal. Et la question de Dieu, c'est quand même d'abord ça. C'est-à-dire, comme on dit en français vulgaire, quotidien, c'est-à-dire le vrai français, ça vous fait mal, quoi. Que Dieu soit là, beaucoup de gens, ça leur fait mal. Alors, donc, ils disent pas que Dieu n'est pas. Ils disent qu'ils ont débranché. C'est pas pareil. Ils ne veulent pas entendre parler de ces histoires-là qui compliquent tout. Ils veulent rester là où on est. C'est pourquoi, d'ailleurs, le péché est toujours essentiellement, pour saint Augustin, en grec, le péché, ça signifie qu'on manque la cible, comme le biathlon, une faute au tir couché ou au tir droit, paf, faut faire un tour de pénitence. Ça, c'est une très bonne définition du péché. Quand vous ratez la cible, vous avez fait de pénitence, un tour supplémentaire, vous partez avec 30 secondes de retard, c'est fichu. Alors, chez saint Augustin, l'image du péché, c'est le manque d'ambition. C'est-à-dire, le désir n'ose pas désirer plus que ce qu'il avait avant. Après tout, c'était pas si mal, je m'en sortais comme ça, on va pas tout recommencer à zéro. Donc, pour saint Augustin, c'est une faiblesse du désir. L'idée que le péché soit une transgression du désir, c'est une blague. Évidemment, c'est l'inverse. Le péché est toujours une restriction du désir, qui s'identifie, qui se console à peu de frais, et donc qui ne veut pas prendre de risques. Un gelé vaut mieux que deux tu l'auras. Dans le domaine, dans la vie spirituelle, c'est comme en philosophie d'ailleurs, ou en sport, c'est toujours dire il vaut mieux tenter d'avoir quelque chose qu'on n'est pas sûr mais qui est plus grand que de se contenter de ce qu'on est. Parce que vous resterez toujours en troisième division. Donc si vous voulez vous améliorer, il faut partir sur des temps de base beaucoup plus élevés. Alors peut-être que vous n'allez pas tenir la distance et vous allez exploser en vol, ça c'est possible. Mais de toute façon, si vous voulez être sélectionné dans l'équipe du canton ou dans l'équipe nationale suisse, il va falloir augmenter votre niveau de performance. Donc vous savez très bien la barre qu'il faut franchir. Et c'est trop gros pour vous. Situation normale. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour arriver à faire plus que vous ne faisiez? Ça, c'est le problème. Mais l'erreur, la faillite, la faiblesse, c'est de vouloir rester au niveau où l'on est. Et ça, c'est la définition du péché. Alors, on peut se demander si la question de Dieu n'est pas d'abord à poser dans le cadre d'une épistémologie de ce type, plutôt que dans le cadre de l'épistémologie de la connaissance de n'importe quoi qui n'est pas Dieu. Et ici, la rencontre interpersonnelle et l'immense est décisive. Si vous voulez vraiment avoir une fille, il faut d'une façon ou d'une autre la draguer. Il est difficile de la draguer sans se déclarer. Et se déclarer, c'est évidemment, on ne peut pas éviter de prendre un râteau. La possibilité est toujours ouverte. Donc, il est fondamental de prendre un risque. Si vous ne voulez pas prendre de risque, bon, c'est terminé. Il vous reste les films porno, mais je veux dire, c'est tout. Non, mais je veux dire, on peut préférer ça, c'est moins risqué. C'est vrai, à tout point de vue. Mais enfin, vous serez tout seul. Donc, le problème est vraiment de savoir, dans le cas de la question de Dieu, à quelle logique de connaissance, on se rapporte. Et la logique propre à la connaissance de Dieu, d'abord elle est documentée par des gens qui ont réfléchi là-dessus, qui ont fait quand même de manière assez conséquente et cohérente la théorie de la chose, la théorie de cette pratique, parce que c'est une pratique, et d'autre part nous en avons un avant-goût dans la relation intersubjective, car la relation intersubjective n'est pas une relation de sujet à objet. Ça obéit, la connaissance dans ces cas-là, à d'autres règles. Et nous avons tous une expérience, limitée peut-être, mais nous avons tous une expérience. Donc il ne faut pas se tromper de type de discours. Wittgenstein dit de jeu de langage. Quel est le jeu de langage qu'on utilise quand il s'agit de Dieu ? Et bien, ce jeu de langage, ce n'est pas le même que quand il s'agit de parler d'une chose du monde.
J'ai juste une dernière question avant qu'on passe aux questions du comment je dois dire du public, des étudiants, c'est sur une autre distinction que vous faites, enfin une distinction qui est que beaucoup font, mais enfin la manière dont vous la pensez, toujours en lien avec ce sujet, c'est la distinction. C'est un peu vers cela que je voulais aller, dans la distinction de la définition aussi, deux modalités de la définition peut-être, mais justement autour de l'image, la distinction entre l'idole et l'icône. Puisque on pourrait dire il n'y a pas de définition, donc on aurait une position, on pourrait dire on détruit les idoles, mais on en resterait à l'iconoclasme, c'est-à-dire à une forme très subtile d'idolâtrie.
Absolument.
Où l'on idolâtre notre geste de casser les statues. Bon. Et là, il y a l'icône. Alors, oui, quelle est cette distinction entre...
Ben, ça, le jour où j'ai vu la distinction, l'opposition entre l'icône et l'idole, là, j'ai eu l'impression de vraiment... C'est évident quand on y songe. Mais enfin, c'est pas... J'ai eu du temps à le trouver. Le propre de l'idole, c'est que c'est une représentation qui est à la mesure de celui qui la voit. Donc, l'idole est toujours « friendly ». C'est sa définition. Elle montre ce qu'on a envie de voir. Donc devenir une idole, c'est que les gens vont se conformer à l'idole, l'idole des jeunes, l'idole, etc. Ils vont vous imiter, vous, si vous êtes une idole, parce que vous avez commencé, vous, à les imiter. Donc l'idole, c'est ce qui correspond exactement à la portée du regard, à ce qui en met... à ce qui satisfait le regard ou le désir. Le regard et le désir sont souvent équivalents. Donc j'avais défini l'idole comme le miroir du regard, c'est-à-dire que le regard se voit dans le miroir, se voit lui-même dans l'idole. Apparemment, l'idole est un spectacle, c'est la définition, c'est du visible l'idole, du vu, idolon, de eidos, de eidein, c'est du vu. Mais ce vu, ce spectacle, en fait, c'est le spectacle qui est la mesure du regard et du désir, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un grand spectacle, c'est ce qui vous en met plein la vue, c'est-à-dire votre regard est satisfait. Il a eu des effets spéciaux et ou du son saturé à fond la caisse. Il en a vraiment assez pour la soirée. Il en a eu. Il a eu son compte. Donc, le regard est content de son idole parce que l'idole lui donne exactement ce qu'il attendait. Donc, c'est un miroir, en ce sens. Et ça ne se voit pas tout de suite que c'est un miroir. Les gens ont l'impression qu'ils font une expérience... d'autre chose que d'eux-mêmes. Donc c'est un miroir invisible. Les gens pensent qu'ils sont en train d'expérimenter une réalité. En fait, ils expérimentent exactement ce qui comble la mesure de leur désir, qui est d'ailleurs préprogrammé par des gens qui produisent des idoles. Ils font des études de marché pour savoir qu'est-ce que les gens veulent. Et on va leur donner ce qu'ils veulent. Alors ils s'imaginent qu'ils vont avoir quelque chose de différent d'eux. Non, en fait, ils vont avoir la réalisation de leur désir. Comme on sait, le désir est toujours limité. Donc c'est ça le danger de l'idole, c'est qu'elle satisfait le désir et elle le limite. Parce que l'intérêt du désir, c'est qu'il faut qu'il soit déçu. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, il en veut plus. Donc le progrès est possible. Mais s'il est satisfait, mort. Donc ça, c'est l'idole, miroir invisible du désir ou du regard. Qu'est-ce que c'est que l'icône ? L'icône, et d'ailleurs c'est exactement ça, l'icône, c'est la même chose que l'idole, c'est du visible, avec souvent un visage, comme dans l'idole la plupart du temps. Sauf que cette fois-ci, vous vous mettez à genoux et vous priez devant. Alors pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que vous êtes vu par ce visible-là. L'idole, c'est ce que vous voyez, et en fait, c'est vous-même. Et l'icône, c'est ce qui vous regarde. Du moins, il y a une icône à partir du moment où vous considérez qu'il y a là une présence qui s'adresse à vous et que vous reconnaissez comme telle. En vous mettant à genoux, en faisant un signe, en priant, n'importe quoi. Et c'est très intéressant de voir, d'ailleurs, quand il y a une exposition d'icônes dans un musée ou chez un antiquaire, ça n'est plus une icône. C'est acheté comme un tableau, comme une idole. Il y a des peintures religieuses, quand vous les voyez dans des musées, elles ne sont plus des icônes, elles sont des idoles. Donc l'idole, l'icône peut devenir une idole. L'idole, l'icône ne reste une icône que si on prie devant, ou si on se sent interpellé par elle, comme on dit.
Si on permet ce retournement de la lumière dont on a parlé, c'est là le retournement du regard.
Exactement, retournement du regard. Donc l'idole, c'est ce qui m'advient, le regard qui m'advient, c'est-à-dire le regard qui peut me vouloir du mal, comme le regard objectivant chez Sartre, qui me regarde comme un objet, mais aussi celui qui va me faire du bien ou qui va me faire du mal en me faisant du bien, qui est le regard d'amour et de haine, etc., qui me met en scène, qui s'adresse à moi comme tel, et qui me fait devenir un jeu. Et c'est ce regard qui se retourne sur moi. Donc à ce moment-là, alors c'est pourquoi l'icône est invisible. Elle n'est pas invisible parce qu'il n'y a rien à voir. Elle est invisible parce qu'elle consiste à exercer la visibilité sur moi. Ce que dit très bien Lévinas. Le visage, selon Lévinas, c'est le visage d'autrui, il est une curieuse propriété, il est invisible. C'est-à-dire, ça n'est pas, bien entendu qu'il est visible, mais ce n'est pas en tant qu'il est visible qu'il m'interpelle. Il m'interpelle en tant qu'il silencieusement, il me dit quelque chose. C'est-à-dire, tu ne me tueras pas, enfin, je ne suis pas un objet du monde. J'ai des droits sur toi, tu as des devoirs vis-à-vis de moi, tu peux me tuer, mais dans ce cas-là, tu es un meurtrier, tu as des devoirs parce que je suis plus toi-même plus que toi-même. La question de l'éthique. Donc, le visage est invisible parce qu'il me regarde. En un sens, il me parle. D'ailleurs, en français, on dit de temps en temps, ceci me parle beaucoup. Quand on dit « ceci me parle beaucoup », c'est évidemment toujours à propos de quelque chose qui ne parle pas. Eh oui, ce tableau me parle beaucoup, ce paysage me parle beaucoup. On voit très bien ce que ça veut dire. L'icône, c'est ça. Donc, il y a un rapport entre l'idole et l'icône, et la vérité est du domaine de l'idole, et c'est normal quand il s'agit d'un objet, ou du domaine de l'icône quand il ne s'agit pas d'un objet. Et les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut comprendre ça. Et pas dire que c'est exceptionnel. Les gens me disent, mais vous décrivez toujours des phénomènes limites, des situations exceptionnelles. Que nenni ! C'est absolument régulier. On a tous expérimenté ça, c'est pas vrai. L'icône, c'est une chose, une banalité. Chaque fois que vous êtes amoureux, vous savez ce que c'est. Et aussi longtemps que vous êtes amoureux, vous savez ce que c'est. Enfin, amoureux, vous avez des enfants, etc. C'est évident. Les amis, l'icône, nous savons tous ce que c'est. C'est ce qui vous advient que vous ne pouvez pas convoquer. Voilà. Donc, et alors, c'est pas. Donc, on revient à la question que vous posiez. Vous voyez, on n'est pas ici dans un incompréhensible vague. On est dans un changement de manière de connaître. Il y a un changement épistémologique, comme on disait dans le temps. Une coupure épistémologique. Donc, l'immense faiblesse du discours tout venant, c'est de nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de connaître. C'est toute l'ambiguïté des sciences humaines. Que la philosophie, les beaux-arts, etc., aient voulu se constituer comme science molle, par opposition au sens dur. On sent déjà dès les adjectifs là que on est dans le flou le plus complet. Il faut dire, non, les humanités ne sont pas des sciences. C'est beaucoup plus rigoureux que ça. Vous comprenez ? Les humanités ne sont pas des sciences molles, des sciences à demi-sciences. C'est autre chose que des sciences, et en un sens, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus rigoureux. Parce qu'il faut. Les méthodes sont plus subtiles.
Et ça fait plus mal.
Et ça fait plus mal. Mais on aime ça. D'ailleurs, il faut aimer ça, autrement on ne peut pas. Donc, c'est très important. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les littéraires se sont laissés embarquer dans cette affaire. Et ça finira par... Ça n'a plus de sens. Et alors après, on ne s'étonnera pas, évidemment, que les disciplines concernant l'homme soient devenues des tentatives d'augmenter l'objectivation de l'homme, c'est-à-dire de détruire l'homme. D'où la nécessité de Philanthropos. Pour compenser, l'avenir appartient à des choses comme Philanthropos, c'est-à-dire l'homme n'est pas un objet. Donc ce n'est pas un objet de science, car il y a des objets que pour des sciences. Qu'est-ce que c'est qu'un objet ? C'est ce que dans un domaine, une méthode peut connaître intégralement. Donc pour construire un objet, on commence par éliminer tout ce qu'on ne peut pas connaître intégralement. Donc un objet, c'est une chose dont on a éliminé ce qui n'est pas certain. C'est ce que dit Descartes. Hein. On fait un objet grâce à certaines procédures de soustraction. On soustrait tout ce qui change trop. Parce que ça, on ne va pas pouvoir le connaître intégralement. Donc on ne garde que ce qu'on peut connaître intégralement, c'est-à-dire mesurer, modéliser, produire et reproduire. Donc, par exemple, quand on parle du mouvement, on va commencer par s'intéresser au mouvement qui change le moins. C'est le mouvement local. Où, en principe, on peut avoir les mêmes propriétés simplement déplacées dans l'espace. Puis après, on va tout essayer de... C'est pour ça que, quand on étudie l'homme, ben, on va privilégier ce qui peut être objectivé dans l'homme. C'est-à-dire l'étendue, le quantifiable, etc. Puis tout le reste, on va laisser tomber parce que ça n'entre pas dans les cadres de l'épure. Je pense que vous connaissez tous les biologistes avec leur génome, leur truc, et qui arrivent triomphalement en vous disant, entre les primates supérieurs et nous, il y a 80% du génome qui est en commun. Hein ? Plus encore, 99. Ça vous fait mal, ça, hein ? Et ils en déduisent, vous voyez, comme nous sommes proches. Alors ça, c'est l'argument, le self-defeating argument par excellence. Parce que si entre les primates supérieurs et nous, il y a 80% du génome qui est le même, ça veut dire que le génome n'explique rien, vu la différence qu'il y a entre eux et nous. C'est fondamental. C'est fondamental parce que, évidemment, ils peuvent analyser ce qui peut être objectivable. Or, justement, la différence ici, elle est énorme et elle n'est pas objectivable. Du moins, actuellement, nous ne savons pas l'objectiver. Alors, ils font un argument qui se retourne, évidemment, comme un gant. Ça veut dire que ce qu'ils étudient n'est pas décisif. Le jour, excusez-moi, c'est une plaisanterie facile, mais le jour où un primate viendra m'expliquer qu'il a 80% de génome commun avec moi, là, je serai impressionné. Mais oui, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais le problème, c'est que on voit très bien que l'énormité de la différence culturelle, enfin, etc., qui il n'y a pas besoin de s'étendre, on ne peut pas en rendre compte avec le type d'objectivation de la vie, humaine ou animale, qui est utilisée dans ces cas-là. C'est juste à côté de la plaque, c'est pas comme ça que ça s'explique. Donc il faut bien comprendre que on objective ce qu'on peut objectiver. Et le problème de l'expérience humaine, c'est que l'essentiel de l'expérience humaine est non objectivable. C'est-à-dire, personne ne peut expliquer. Nous pouvons pas. Nous savons très bien la différence entre quelque chose qui est beau et quelque chose qui ne l'est pas. Simplement, curieusement, comme dit très bien Kant a très souvent raison, la différence reste sans concept. Et pourtant, elle est contraignante, elle est universelle. Elle est sans concept, on ne peut pas expliquer. C'est très difficile en droit d'expliquer pourquoi quelque chose est juste et pourquoi quelque chose n'est pas juste. Mais nous savons tous quand une décision est juste et quand elle ne l'est pas, presque tout le temps, instinctivement. Mais quand on essaie de donner les attendus d'une décision, c'est très difficile parfois à donner. Je prends le cas du juste, du beau. Bon, les expériences les plus fondamentales que nous éprouvons, je vais encore revenir là-dessus, l'expérience amoureuse, elle défie toute explication. Et pourtant, il n'y a rien de plus, j'allais dire, logique et même contraignant que le scénario érotique, qui a des règles absolues. Il faut les connaître, mais enfin, il y a des règles absolues, c'est tout, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Parce que c'est aussi contraignant que les règles d'échec. Mais simplement, on ne peut pas les formaliser de la même manière. Donc, il y a une. Vous savez, il y a quelque temps, les constructeurs automobiles ont décidé de faire des moteurs plus petits qui seraient plus puissants que les moteurs plus gros. On appelait ça le downsizing. Alors, ce qui vaut pour les moteurs de voiture, qui maintenant n'ont plus 8 cylindres, 6 cylindres, 4 cylindres, maintenant la plupart en ont 3, même des voitures moyennes, 3 cylindres seulement, vous vous rendez compte? Sans turbo. 3 cylindres, on fait 120 chevaux, sans difficulté, c'est incroyable. Bon. Je ferme cette parenthèse. Le downsizing, ça vaut pour les moteurs de voiture, mais ça vaut pas en philosophie. Or, l'objectivation, c'est du downsizing. C'est-à-dire, on ne va garder de l'expérience, comme dit Descartes, on ne gardera rien de ce qui rend l'expérience incertaine. Et donc, il faut éliminer la matière. Car la matière, ce n'est pas le matériau, c'est la hulée, c'est le facteur d'indécision, la variable. Et non pas la variable d'ajustement, la variable de non-ajustement. Ce qui fait du jeu dans les pièces, dans les engrenages, c'est le jeu. Donc, un objet, c'est ce qui est le plus certain possible, c'est donc ce qui est le moins matériel possible. Un objet, faut il faut qu'il soit dans les strictes limites de la cote, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Donc on est passé d'un millimètre d'un jeu, un millimètre de jeu était toléré, puis après c'était un centième, après c'est un millième, après c'est un micron. Donc maintenant on en est dans les pièces usinées à des. Il n'y a quasiment plus de jeu, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne rôde plus les moteurs, il n'y a plus besoin. Donc un objet technique parfait, c'est un objet immatérialisé. Nous ne sommes pas devenus. Il faut s'entendre sur le matérialisme. Hein. Le matérialisme, il n'y a pas de matérialisme parce qu'il n'y a pas de matière. C'est Lénine qui a expliqué ça très bien dans un livre que tout le monde devrait lire, Matérialisme et empirocriticisme. Il n'y a plus de concept de matière. Et Lénine dit oui, mais enfin ça, il ne faut pas en tirer la conclusion bourgeoise qu'il n'y a plus de matérialisme possible. Le matérialisme passe de la définition de la matière. De la matière. C'est très juste. C'est pour ça que c'est une idéologie et pas une science. Bon, je reviens. Notre société est la moins matérialiste du monde. On n'a jamais été aussi peu matérialiste. Parce que il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus d'indétermination. L'objet, c'est ce... La différence entre une chose et un objet, c'est que la chose reste vague, indéterminée, on ne sait pas ce qu'elle vous réserve, on ne sait pas comment ça va se tourner. Il se passe des choses, il ne pense qu'à la chose, les choses vont bien. Bon. La chose, c'est toujours ce qui garde sa part de mystère. L'objet, c'est ce qui est suffisamment dématérialisé pour ne jamais être différent de lui-même. Donc, la technique consiste à dématérialiser les choses. Il fut un temps où la fonte et l'acier pétaient dans les moteurs. Il coulait des miels, il y avait des ruptures de carter, des trucs comme ça. Bon, ça, c'était de la matière. Bon, maintenant que les moteurs ne tombent jamais en panne, les moteurs sont immatériels. Et oui, parce qu'ils sont conformes à la théorie, à la définition. Je veux dire, ils sont absolument efficaces, il n'y a pas de déchets. Enfin, en ce sens. Donc la performance est... Et oui, il y a un autre sens. Enfin, la performance est égale à ce qu'on avait prévu. C'est un objet parfait. Un objet parfait est immatérialisé. Et le grand problème des sciences humaines, comme ils disent, c'est que c'est difficile d'immatérialiser l'homme. Il y a toujours de la matière qui résiste dans les coins, qui se transfère, etc. D'où le rêve, évidemment, d'en faire un autre, où il n'y aurait pas de matière, ou du moins beaucoup moins, qui soit enfin raisonnable, qui soit raisonné. Et donc, si vous voulez, nous, ce que nous avons fait, ce que la rationalité, sous le contrôle de la métaphysique, a fait, ça a été de découvrir un modèle qui marchait, qui est celui de la méthode, la constitution d'objets par immatérialisation, de conformer l'expérience à la théorie étant toujours plus étroite que l'expérience, évidemment, et, comme ça marchait dans un domaine limité, d'essayer d'exporter cette démarche dans d'autres domaines. Et c'est pas parce que nous n'avons pas d'âme. Quand les gens des sciences cognitives, de la physiologie du cerveau, etc., nous disent que nous n'avons pas d'âme, c'est pas parce que nous n'en avons pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus et qu'ils essaient de s'en passer. On comprend très bien que c'est leur vœu le plus cher que nous n'ayons pas d'âme. Ils ne sont pas encore arrivés à nous en dispenser. Et ils voient bien qu'on en a toujours. Mais où, comment est-ce qu'on pourrait arriver à la... Donc c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire que l'âme soit une invention et qu'elle soit inconnaissable. Ça veut dire que ça ne se connaît pas comme un objet. Mais en fait, l'essentiel de notre vie n'est pas objectivable. C'est pour ça que c'est qu'on appelle ça. C'est une chose intéressante, ce concept de vie. Le concept, il n'y a pas jamais eu de définition philosophique de la vie, à ma connaissance. Personne ne sait ce que c'est. Alors on voit très bien quand elle n'est pas là. Quand quelqu'un meurt, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est parti. Mais ce n'est pas quelque chose et donc on ne peut rien en dire. C'est intéressant que... Parce que la différence n'est pas entre ce qui est et ce qui n'est pas. C'est entre le vivant et le non-vivant. Ça, c'est une vraie différence indiscutable. C'est une différence qui est totalement inintelligible, enfin incompréhensible. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand il y a des philosophies de la vie, c'est toujours un signe que c'est des mauvaises philosophies, parce qu'elles prétendent parler de quelque chose dont on ne peut rien dire. Le vitalisme est une blague. Toute philosophie de la vie est une blague. Parce que même Aristote, ou même Hegel, ou même Nietzsche, n'ont jamais, qui parlent un petit peu de la vie de temps en temps, ils n'ont jamais eu l'inconscience et l'audace de prétendre la définir.
Alors on a 2 minutes là. Non. On devait laisser des questions, enfin on pourrait faire pour la deuxième partie, mais une question avec une réponse de 30 secondes. Vous êtes capable de performance comme ça, hein,
je suis prêt, allez-y.
Alors, Emmanuel.
2 questions par rapport à Heidegger. Donc 15 secondes par réponse. Oh. Mais... Dieu sans l'être, est-ce que c'est quand Heidegger dit Dieu passe? Dieu n'est pas, mais il passe. Deuxième question, Dieu me parle ou Dieu parle?
Alors, Dieu sans l'être, c'est contre Heidegger, c'est contre un argument dont la formulation la plus célèbre se trouve dans la lettre sur l'humanisme. La question, ce n'est qu'à partir de la question du divin, à partir de la question des dieux, que la question de Dieu peut se poser. La question du divin ne peut se poser qu'à partir des dieux, ne peut se poser qu'à partir de la question du divin, qui ne peut se poser elle-même que à partir de la question du sacré, qui ne peut se poser qu'à partir de la section de Das, la question de Das Heile, la tact, qui ne peut se poser qu'à partir de la question de l'être. Donc que toute manifestation de Dieu, du Dieu chrétien, est subordonnée aux médiations qui conduisent à la question de l'être. Donc c'était contre ça. Donc l'être n'est... Alors, thèse, la révélation signifie qu'il n'y a pas de condition de possibilité. Dieu n'a pas de condition de possibilité. Donc il n'y a pas... Et c'est pour ça qu'il y a une révélation. La révélation, c'est que Dieu fait irruption sans respecter les usages. Les conditions de possibilité, les usages de la philosophie.
L'idée de Heidegger, c'est qu'il était le prophète, finalement. Il fallait d'abord lire Heidegger pour pouvoir enfin parler sérieusement de Dieu.
C'est ça. Donc c'était remis à une date ultérieure. Et la deuxième question, c'est que je pense que chaque fois que Dieu parle, il parle à quelqu'un. C'est le contraire de notre usage de la parole. Nous, souvent, nous pouvons user de la parole pour un vaste public et pour tout le monde. Le problème de la parole de Dieu, c'est qu'elle est toujours... à chacun, elle apparaît comme parfaitement individualisée. Ce serait peut-être une bonne définition, je n'y avais pas pensé, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours la parole qui fait vivre un mort, qui suscite, voire ressuscite quelqu'un. Ce n'est pas une parole en général. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est une parole efficace, qui fait ce qu'elle dit, etc. Parce qu'elle est... Et donc, ça, elle peut même le faire sans parler. Tandis qu'une parole collective, il faut bien qu'elle soit prononcée, que tout le monde puisse l'entendre.